était, Martine monta justement dire que le docteur Rameau était en bas, insistant de nouveau pour être reçu. Et Pascal, cédant peut-être à un inconscient besoin de savoir, s'écria « Eh bien, qu'il monte puisqu'il s'entête, ça me fera plaisir. » Les deux hommes s'embrassèrent, et il n'y eut pas d'autre allusion à l'absente, à celle dont le départ avait vidé la maison, qu'une énergique et désolée poignée de main. « Vous ne savez pas pourquoi je viens ?» s'écria tout de suite Rameau. « C'est pour une question d'argent. Oui, mon beau-père, monsieur l'évêque, l'avoué que vous connaissez, m'a parlé hier encore des fonds que vous aviez chez le notaire Grand-Guillot. Et il vous conseille fortement de vous remuer, car des personnes ont réussi, dit-on, à rattraper quelque chose. « Mais, dit Pascal, je sais que ça s'arrange. Martine a déjà obtenu 200 francs, je crois. » Rameau parut très étonné. « Comment, Martine, sans que vous soyez intervenu ? Enfin, voulez-vous autoriser mon beau-père à s'occuper de votre cas ? Il tirera les choses au clair, puisque vous n'avez ni le temps ni le goût de cette besogne. « Certainement, j'autorise, monsieur l'évêque, et dites-lui que je le remercie mille fois. » Puis, cette affaire réglée, le jeune homme ayant remarqué sa pâleur et le questionnant, il répondit avec un sourire « Figurez-vous, mon ami, que je viens d'avoir une crise d'angine de poitrine. Oh, ce n'est pas une imagination, tous les symptômes y étaient. Et tenez, puisque vous vous trouvez là, vous allez m'ausculter. » D'abord, Rameau s'y refusa, en affectant de tourner la consultation en plaisanterie. Est-ce qu'un conscrit comme lui oserait se prononcer sur son général ? Mais il l'examinait pourtant, lui trouvait la face tirée, angoissée, avec un singulier effarement du regard. Il finit par l'ausculter avec beaucoup d'attention, l'oreille collée longuement contre sa poitrine. Plusieurs minutes s'écoulèrent dans un profond silence. « Eh bien ?» demanda Pascal lorsque le jeune médecin se releva. Celui-ci ne parla pas tout de suite. Il sentait les yeux du maître droit dans ses yeux. Aussi ne les détourna-t-il pas. Et, devant la bravoure tranquille de la demande, il répondit simplement « Eh bien, c'est vrai, je crois qu'il y a de la sclérose. » « Vous êtes gentil de ne pas me mentir, » reprit le docteur. « J'ai eu peur un instant que vous ne mentiez, et cela m'aurait fait de la peine. » Rameau s'était remis à écouter, disant à demi-voix. « Oui, l'impulsion est énergique. Le premier bruit est sourd, tandis que le second, au contraire, est éclatant. On sent que la pointe s'abaisse et se trouve reportée vers l'aisselle. Il y a de la sclérose. » C'est au moins très probable. » Puis, se relevant, « On vit 20 ans avec cela. » »« Sans doute, parfois, » dit Pascal, « à moins qu'on en meure tout de suite, foudroyé. » Ils causèrent encore, s'étonnèrent au sujet d'un cas étrange de sclérose du cœur observé à l'hôpital de Plassans. Et, lorsque le jeune médecin partit, il annonça qu'il reviendrait, dès qu'il aurait des nouvelles de l'affaire Grand-Guillot. Quand il fut seul, Pascal se sentit perdu. Tout s'éclairait, ses palpitations depuis quelques semaines, ses vertiges, ses étouffements. Et il y avait surtout cette usure de l'organe, de son pauvre cœur surmené de passion et de travail. Ce sentiment d'immense fatigue et de faim prochaine, auquel il ne se trompait plus à cette heure. Pourtant, ce n'était pas encore de la crainte qu'il éprouvait. Sa première pensée venait d'être que lui aussi, à son tour, payait son hérédité, que la sclérose, cette sorte de dégénérescence, était sa part de misère physiologique, le legs inévitable de sa terrible ascendance. D'autres avaient vu la névrose, la lésion originelle, se tourner en vice ou en vertu, en génie, en crime, en ivrognerie, en sainteté. D'autres étaient morts phtisiques, épileptiques, ataviques. Lui avait vécu de passion et allait mourir du cœur. Et il n'en tremblait plus. Il ne s'en irritait plus de cette hérédité manifeste, fatale et nécessaire sans doute. Au contraire, une humilité le prenait. La certitude que toute révolte contre les lois naturelles est mauvaise. Pourquoi donc autrefois triomphait-il, exultant d'allégresse, à l'idée de n'être pas de sa famille, de se sentir différent, sans communauté aucune? Rien n'était moins philosophique. Les monstres seuls poussaient à l'écart. Et être de sa famille, mon Dieu, cela finissait par lui paraître aussi bon, aussi beau que d'être d'une autre. Car toutes ne se ressemblaient-elles pas? L'humanité n'était-elle pas identique partout, avec la même somme de bien et de mal? Il en arrivait, très modeste et très doux, sous la menace de la souffrance et de la mort, à tout accepter de la vie. Dès lors, Pascal vécut dans cette pensée qu'il pouvait mourir d'une heure à l'autre. Et cela acheva de le grandir, de le hausser à l'oubli complet de lui-même. Il ne cessa pas de travailler, mais jamais il n'avait mieux compris combien l'effort doit trouver en soi sa récompense, l'œuvre étant toujours transitoire et restant quand même inachevée. Un soir, au dîner, Martine lui apprit que Sarteur, l'ouvrier chapelier, l'ancien pensionnaire de l'asile des Tulettes, venait de se pendre. Toute la soirée, il songea à ce cas étrange, à cet homme qu'il croyait avoir sauvé de la folie homicide par sa médication des piqûres hypodermiques, et qui, évidemment, repris d'un accès, avait eu assez de lucidité encore pour s'étrangler, au lieu de sauter à la gorge d'un passant. Il le revoyait, si parfaitement raisonnable, pendant qu'il lui conseillait de reprendre sa vie de bon ouvrier. Quelle était donc cette force de destruction? Le besoin du meurtre se changeant en suicide, la mort faisant sa besogne malgré tout. Avec cet homme disparaissait son dernier orgueil de médecin guérisseur. Et chaque matin, quand il se remettait au travail, il ne se croyait plus qu'un écolier qui épelle, qui cherche la vérité toujours, à mesure qu'elle recule et qu'elle s'élargit. Mais, cependant, dans cette sérénité, un souci lui restait.